Et encore une fois, pour évidemment la réussite de nos soldats, pour la victoire pleine et entière contre le mal, pour le retour de tous nos otages, pour la réfoua de tous nos blessés et l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Les amis, le point paracha. Et alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a un gros travail. Paracha de Toldot, par rapport à notre situation actuelle, par rapport au monde musulman, et vous allez me dire rien à voir, et par rapport à notre journée incroyable d'aujourd'hui, du 3 qui se lève. Grosse salade, venez, on va voir de quoi on parle. Les amis, Parashat Toldot, on connaît, c'est l'histoire de Yaakov et Esav. L'histoire du développement de Yaakov et Esav, de cette dualité qui se met en place entre les deux, mais surtout de la naissance de l'identité d'Israël. Il y a deux enfants qui sont censés être les successeurs de Abraham et Yitzhak. Quand on y réfléchit, Abraham n'a qu'un seul fils, c'est Yitzhak. Ishmaël n'est pas l'héritier, il est le fils de la servante. Quant aux enfants de Keturah, eh bien, ce n'est qu'après qu'il a fait officiellement de Yitzhak son successeur qu'il a d'autres enfants. Donc, il n'y a pas de doute avec les enfants de Keturah. Et d'ailleurs, on n'a pas de problème avec eux. Quoi qu'il en soit, lorsque Yitzhak a deux enfants, deux Rivka, eh bien les deux sont censés être ses successeurs. Ils doivent bosser de concert, Yaakov et Esav. Et nous disent tout de suite nos sages que Yaakov a plus une tendance vers le dévoilement de la Torah et Esav a plus une tendance à dévoiler ce monde. Eh bien, pas de problème, ils ont qu'à bosser ensemble. Seulement, pour que ça marche, il faut que Yaakov soit quand même un petit peu imprégné de ce monde et que Esav soit un peu imprégné aussi de la Torah. Lorsque la Torah nous dit dans notre paracha que Vayavo Esav minasadev et Wayef, que lorsque Esav arrive et dit à Yaakov j'en peux plus, il lui dit quoi? Il dit Alitenina mina adom adom azek yayef anochi. Eh bien, sans rentrer dans tous les détails, Esav vient lui dire je suis fatigué de chercher Dieu. Je n'y arrive pas. Et donc, je veux me concentrer uniquement au lamazé. À partir de ce moment-là, Yaakov prend une décision. Il dit puisque c'est comme ça, puisque tu ne veux pas faire le mix des deux, je vais devoir le faire tout seul. Et à ce moment-là, Yaakov commence une métamorphose. Il faut bien comprendre que Yaakov ne peut pas réaliser le projet divin. Yaakov n'a pas ce qu'il faut pour réaliser le projet divin. Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov, c'est le mec qui est dans le Bet HaMidrash, qui étudie la Torah. C'est le mec qui est détaché de ce monde, qui connaît très bien la spiritualité, mais qui est complètement détaché de ce monde. Yaakov ne peut donc pas être celui qui dévoile Dieu dans ce monde. Il peut dévoiler Dieu au Beth Amidrash, mais il ne peut pas le dévoiler dans ce monde. Mais lorsque Esav décide de ne plus prendre part au projet divin, Yaakov décide de changer. Et il commence sa métamorphose en prenant la Bechora. La Bechora, le droit d'aînesse de Esav. Mais c'est quoi la Bechora? Eh bien, les amis, la Bechora, c'est le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le Bechor, oui, d'abord, il avait double ration d'héritage pour avoir la responsabilité de la famille dans ce monde, mais il était aussi celui qui bossait au Beth Amikdash. Oui, c'est lui qui devait bosser deux semaines par an au Beth Amikdash. Faire le lien entre le ciel et la terre. Alors, il y a eu le Vaudor, finalement, c'est les Kohanim qui ont remplacé, mais dans l'idéal, le Bechor, c'est lui qui doit faire le lien entre les deux mondes. Et donc, Yaakov d'abord prend la Bechora, le droit d'aînesse de Esav. Il lui achète. Ensuite, arrive le passage le plus incroyable de notre paracha. La fameuse histoire de la Beracha, de la bénédiction que Yitzhak veut donner à Esav. Alors il lui dit, je veux te donner à toi la bénédiction, va chasser pour t'imprégner du Olam Hazeh, ça je sais que tu sais très bien faire. Et ensuite, je pourrais, moi, avec cette nourriture que tu me donnes, qui vient du Olam Hazeh, je pourrais te bénir. Je vais t'apprendre comment on fait le lien entre les deux mondes. Mais ça ne vive pas. Yaakov, avec l'aide de Rivka, vont décider de faire le stratagème que vous connaissez bien. Ils vont prendre des animaux du troupeau. On va les abattre, on va les cuisiner. Et de leur peau, on va revêtir les mains et la nuque de Yaakov. Quoi? Pour tromper Yitzhak? Alors deux secondes, on va s'arrêter deux petites minutes. Aveugle, pas aveugle, les amis, particulièrement si Yitzhak il est aveugle, ses autres sens sont décuplés, que ce soit son ouïe, que ce soit son toucher. Les amis, il est une chose est sûre, quand Yaakov il rentre dans la tente et qu'il commence à parler, personne ne se trompe, tout le monde sait que c'est Yaakov. Deuxièmement, quand il commence à le toucher et qu'il a mis des peaux de bête, des peaux de chèvre sur le bras, personne se trompe, ok? Personne ne pense que des pots de chèvre, c'est les bras de Esav. Donc faut arrêter. Nous dit la Torah que lorsque Yaakov est rentré dans la tente et que Yitzhak lui a parlé et qu'il a touché, il a marqué Veloi Kiro, et il ne l'a pas reconnu. C'est quoi il ne l'a pas reconnu? Ça veut dire que ce n'est plus Yaakov qui est dans la tente. Vient de rentrer dans la tente un nouveau personnage que Yitzhak ne connaît pas. Et je vais vous dire que Yaakov ne connaît pas non plus. Ce personnage, il porte un nom. Yitzhak va l'appeler Akol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. La voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. C'est son nom. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau personnage qui est capable d'avoir l'idéal de Yaakov, mais la réalisation dans ce monde de Esav. Ce nom-là va continuer à s'enrichir lorsque plus tard Yaakov prendra la femme qui était prévue a priori pour Esav, Léa. Et une fois qu'il va se battre avec l'ange de Esav, à ce moment-là, l'ange lui dira « On va changer ton nom, tu ne seras plus Yaakov, ni Akol, Kol Yaakov et Adaim et Esav, tu seras Israël. » Et la métamorphose se termine lorsque, revenant à Shrem, à Kadosh Baruch Hu, revenant en Israël après son exil, Yaakov devient véritablement, Dieu l'appelle, Israël. Les amis, ce que nous vivons actuellement avec l'islam, avec les musulmans qui ne nous reconnaissent pas, avec ce monde qui veut nous voir disparaître, eh bien, c'est de cela dont on parle. Dans le Coran, il y a deux appellations totalement différentes en ce qui concerne le peuple juif. D'un côté, une désignation extrêmement méprisante, mais de l'autre, une désignation extrêmement respectueuse. La définition médisante et méprisante, c'est El-Yahoud. El-Yahoud, c'est les Yehoudim, c'est les Juifs, c'est Yaakov. C'est la dimension exilique du peuple juif. Et lorsque l'islam se retrouve devant El-Yahoud, eh bien, il le méprise, et il doit être dimi, et il doit être persécuté, et on n'a aucune considération pour lui. Et si, des fois, on peut faire des pogroms, bon, on fait des pogroms. Mais dans le Coran, dans la sourate 5, sourate 17, eh bien, il va y avoir un respect énorme donné à une identité qui s'appelle Banu Israël. Banu Israël, Bene Israël. Et là-bas, les musulmans, dans le Coran, disent clairement, noir sur blanc, sourate 5, sourate 17, que Dieu a promis la terre d'Israël à Bene Banu Israël et qu'il y a une mitzvah au Banu Israël de venir conquérir la terre d'Israël. Et que cette terre d'Israël s'étend sur la rive est et ouest du Jourdain. Tout ça, c'est marqué dans le Coran et dans le Hadith. C'est-à-dire que dans les textes les plus fondamentaux de l'islam, tout le monde sait que cette terre dans laquelle nous sommes a été donnée à Banu Israël. Banu Israël. Alors le problème, il est quoi? Il est que pour les musulmans, nous ne sommes plus Banu Israël. Banu Israël, c'était le peuple juif de l'époque du Tanakh. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'Al-Yahoud. Pourquoi? Et parce que pendant 2000 ans, on s'est comporté comme Al-Yahoud. Il faut maintenant, pas suffisant que nous ayons reconstruit notre État, il faut que nous nous recomportions comme Banu Israël, comme des gens souverains, comme retrouvant notre autorité. Lorsqu'on se reconsidère comme Banu Israël, alors le monde arabe peut aussi nous considérer comme tel et peut faire teshuva comme Ishmaël a fait teshuva devant Yitzhak. Et quel est le secret du jour? Le 3 qui se lève, nous sommes le 3 qui se lève, les amis. Quel rapport avec tout ça? Mais vous savez que le 3 qui se lève, c'est un jour de fête. Alors, c'est un jour de fête, certes, qu'on a annulé, mais c'est un jour de fête quand même. Vous savez qu'il y a une trentaine de journées, en plus, dans le calendrier juif, qui sont des jours de fête, qui sont retrouvés dans le livre Megillat Ta'anit, des jours qui avaient été mis en place à l'époque du Deuxième Temple, pour plein de victoires différentes, et toute la Megillat Ta'anit a été annulée après la destruction du Temple, du Deuxième, sauf la fête de Purim et de Hanouka. Mais le 3 qui se lève était, à l'époque, une fête. Et c'était quoi la fête? Eh bien, lorsque les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, on nous dit qu'ils ont mis des statues dans la Hazara. Il y a une marloquette entre les commentateurs, est-ce que c'est des statues de Zeus, des différents dieux du panthéon grec, ou alors des statues du roi? Mais c'est l'homme échané. Comprenez bien, ça change rien. Les Grecs ne sont pas les Babyloniens, ils ne sont pas les Romains. Ils détruisent pas le temple. Parce que c'est beau le temple, il n'y a pas de raison de le détruire. Par contre, on le grecquise. On amène une idéologie occidentale qui n'est pas celle de Banu Israël. Et tant que tu continues à parler avec les mots des statues, les mots de l'Occident, il est évident que l'islam ne te reconnaît pas comme Banu Israël. Maximum, tu es Esav. Le 3 qui se lève, après la victoire des Hashmonaïm, eh bien, nous avons enlevé les statues de la Hazara. Nous avons redonné au Beth Amikdash un langage d'Israël. Si on veut que le monde musulman nous reprenne, que nous revoie comme Banu Israël, il faut que nous recommencions à nous considérer comme Béné Israël. Nous n'avons pas, bien sûr que nous avons aussi des choses bien de la culture occidentale, parce qu'il y a des choses très bien, mais nous ne sommes pas uniquement la culture occidentale. Nous sommes le peuple d'Israël, qui avons un message d'Israël, de Hakol Kol Yaakov Ve'adayim Yedei Esav. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser les moyens de l'Occident. Bien sûr qu'il faut, ils sont très bien. Mais il faut garder la tête du peuple d'Israël. Il faut garder la tête qui dévoile Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et lorsqu'on aura compris cela, eh bien, ni le monde occidental et ça vient, ni le monde de Ishmael, le monde de l'islam, ne pourra avoir quelque chose à redire. Et ensemble, ils pourront faire teshuva et venir et devenir des partenaires pour que nous puissions dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. À nous de comprendre que nous cessons d'être à l'Yahoud et redevenons Banu Israël. Sinon, on le comprend et sinon, on le prétend, prône et dit clairement, le monde entier le comprendra. À bientôt, les amis. Shabbat Shalom.